Gloire au Seigneur. Introduire ces moments en parlant de réfléchir, je réfléchissais à la liberté, pardon. La liberté, nous y aspirons tous à la liberté. À la liberté de mouvement, liberté intellectuelle, que je puisse faire ce que j'ai envie de faire dans la vie. Le texte que nous allons lire ensemble parle d'une femme qui va perdre la liberté parce qu'elle est au fond captive, esclave de quelque chose. Esclave d'un esprit qui domine sur elle, dans sa vie, qui domine sa vie. Le texte, on va le lire ensemble, se trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 10 à 17. Luc, évangile selon Luc, chapitre 13, verset 10. Et ensemble, le témoignage de cette femme. Si vous y êtes. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour de sabbat, du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, « Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire, et cette femme, qui a une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Amen. Amen. Cette femme que nous venons de lire, de découvrir peut-être, pour quelqu'un ce soir, vivait quelque chose de terrible, esclave de quelque chose qui la tenait captive. Mais avant d'aller plus loin, il nous faudra considérer quelque chose d'assez important. Réaliser une chose importante est que cette femme était au rendez-vous au bon endroit. Vous faire remarquer qu'elle était au temple de Dieu, dans la synagogue, un lieu de prière, un lieu de recueillement, un lieu où on entend la parole de Dieu, un lieu d'enseignement. Elle se trouve au temple au même moment que Jésus. Était-ce un hasard? Je ne crois pas. Que dans la parole de Dieu, qu'il y a des choses qui se fassent au hasard et que si cette femme se trouve dans cette synagogue, dans ce temple, c'est parce qu'au fond, elle a voulu faire une chose, elle a voulu rencontrer Jésus. Entendre sa voix, c'est ce qu'elle va faire, tout mettre en œuvre pour se trouver au même moment que lui et vous dire que dans la vie, s'il y a des moments, des rendez-vous à ne pas manquer, c'est un rendez-vous comme celui-ci où vous avez l'occasion d'entendre le message de l'Évangile, de l'entendre ou bien peut-être de le réentendre. Mais il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Ne passez pas à côté et rater d'entendre la parole de Dieu et manquer ce rendez-vous. Entendre, c'est un bon début. Cette femme, elle aurait pu rester à la maison. Elle aurait pu même rester dans un coin. Mais elle ira à ce rendez-vous. Et Jésus, s'approchant d'elle, lui donnera la possibilité de s'abandonner à lui. Se laisser toucher par Jésus n'est pas quelque chose d'anodin. Elle va considérer en voyant Jésus qu'il est l'homme qu'il fallait, l'homme qu'il me faut, c'est celui-ci qui changera quelque chose dans ma vie. Elle va faire un acte de foi. Et cet acte de foi va se matérialiser au travers de ce rendez-vous qu'elle fera. Elle ira le voir. Acte de foi que vous pouvez faire vous aussi. Peut-être que vous avez fait cet acte de foi en vous disant « si je vais à l'église, je le connaîtrai davantage, je saurai qui il est, et peut-être que ce sera ce soir-là où ma vie va changer, comme cette femme que l'on va découvrir plus tard. Elle était possédée d'un esprit malin, et cette chose va lui rendre infirme. il ne peut pas y avoir de guérison. Il ne pourra pas y avoir même de délivrance si vous ne décidez pas, vous aussi, de vous rendre au rendez-vous. Et aussi longtemps que vous avez pu éviter ce rendez-vous, vous avez pu éviter de vous y rendre, la guérison ne sera pas d'actualité. Aussi longtemps que vous avez évité, mis de côté sa parole, vous resterez infirme comme cette femme. Il manquera quelque chose dans votre vie. Une chose évidente est que vous ne pourrez pas être touché par Jésus si vous restez loin de lui. C'est une évidence. Il y a cet homme qui dira ceci, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Et pourtant, c'est vrai que si vous faites cette expérience personnelle de vous approcher de Dieu, de Jésus, il fera le pas vers vous, il viendra vers vous. C'est ce miracle, c'est un miracle de considérer que finalement, moi qui ne suis pas grand-chose, qui suis une poussière parmi d'autres poussières, de considérer que si je viens à lui, que ce Dieu Tout-Puissant qui a créé l'univers s'approchera de moi. Alors n'hésitez pas, faites ce pas, approchez-vous de Dieu au travers de sa parole, approchez-vous de Dieu par la prière. Un autre homme dira ceci, c'est Pierre dans son épître, 1 Pierre chapitre 2 verset 4, je le dis parce que ce n'est pas moi qui le dis, qui l'a inventé, il dira ceci, mais approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et c'est ce qu'elle va faire cette femme, s'approcher de Jésus. Cette femme, elle était au rendez-vous, pourquoi ? Pour entendre la voix de Jésus. Entendre Jésus parler, certainement, était quelque chose, évidemment, d'émouvant, quelque chose d'impressionnant. Peut-être était-elle en doute, s'est-elle posé des questions, mais Jésus, il parle d'amour, il parle de choses merveilleuses, un Dieu d'amour, mais est-ce que Dieu m'aime ? Moi qui suis une femme infirme, moi qui suis quelqu'un qui dérange les autres, mais est-ce que lui, il va m'apprécier ? Est-ce que lui, il m'aime ? Moi qui suis une femme courbée, qui suis une femme brisée, que va-t-il penser ? Et je voudrais vous rassurer. Vous rassurer, il le dit, Ésaïe dira ceci, qu'il ne brisera pas, il ne brisera point le roseau qui a été cassé. Peut-être êtes-vous de ces gens que le monde a brisé, et comme un roseau que l'on a brisé, utilisé après plusieurs jours et que l'on va briser, jeter, s'en débarrasser, peut-être êtes-vous de ces gens rejetés par la société, mais vous rassurez, lui, il va au contraire vous reprendre, et tel un roseau, il va vous redresser, vous redonner une forme et vous réhabiliter. Cette femme, c'est l'expérience qu'elle va faire, c'est une fille d'Abraham, une juive comme Jésus. Et pourtant, cette femme, elle est courbée, infirme. C'est ce qu'on va voir, elle est courbée. Elle avait été liée par cet esprit pendant 18 ans. Les jours, les mois, les années se ressemblent. D'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre, c'est toujours la même chose, courbée. Après toutes ces années, elle aurait pu se décourager. Après toutes ces années, et c'est vrai, certainement, elle a dû s'habituer à son mal, s'habituer à sa maladie, se dire que c'est quelque chose d'incurable, il faut que j'apprenne à vivre avec mon infirmité, avec mon handicap, que c'est comme ça, c'est une fatalité. Et cette femme était déformée par cet esprit malin. C'est toujours, je ne dis pas souvent, mais c'est toujours comme cela que ça se passe. Toujours de cette façon que le mal agit. Dans le cœur d'un homme, dans la vie d'un homme, d'une femme, il commence par courber l'âme, l'homme, la femme qui vit dans le péché, le courber au plus bas. Et quelqu'un dira ceci, oui, courber, mais moi, le prédicateur, regardez, moi, je me porte bien, je ne suis pas courbé, je suis redresser, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il me manque ? D'accord, c'est vrai, mais au fond, n'y a-t-il pas dans votre cœur, dans le cœur de l'homme quelque chose qui vous retienne prisonnier, retienne enchaîné, comme cette femme, quelque chose qui vous courbe. Êtes-vous, n'êtes-vous pas aussi courbé à l'intérieur? De ce que je peux voir, le soleil brille à l'extérieur. Mais est-ce que dans votre cœur, n'y a-t-il pas des chaînes qui vous retiennent? Et comme s'il y avait une main qui vous poussait en bas, qui vous écrasait à tel point que vous vous sentez comme courbé. N'y a-t-il pas des choses dans votre vie qui vous retiennent esclave? Et même impuissant face à certaines choses, de ces choses qui dominent sur votre vie, le péché. Le péché, c'est vrai, le péché courbe l'homme. Le péché ne vous aidera pas. Au contraire, le péché, il mène à la mort. Votre Paul dira ceci, que le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Même si certaines personnes veulent bien se persuader que je peux vivre ma vie, faire ce que je veux, que je peux vivre dans la débauche, que je peux m'amuser, que je peux faire ce que je veux, que Dieu comprendra peut-être. Mais tout de même, salaire du péché, c'est la mort. Salaire du péché reste et restera la mort. Une mort spirituelle, une mort séparée pour l'éternité d'avec Dieu. Mais alors, c'est la raison d'être de cette réunion, que si nous nous réunissons chaque soir, c'est pour vous dire que même si le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie, elle est accessible à chacun d'entre nous. Il suffit de la saisir par la foi. La vie que donne Jésus, une vie et non la mort. Cette femme, elle était courbée et aussi elle était impuissante. Au verset 11, on apprend ceci, la femme était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Elle n'était pas comme les autres, comme certains d'entre nous avons quelquefois le dos, voûté. On se tient quelquefois mal, mais elle avait un vrai mal, elle était infirme. Il lui était totalement impossible de se redresser d'elle-même, de rompre les liens, impossible de le faire d'elle-même. Le visage complètement courbé, tourné vers le bas. Tous les jours, finalement, la seule chose qu'elle arrive à voir, c'est le sol courbé, le visage tourné vers le sol, vers la terre. Seule chose qu'elle arrive à voir tous les jours, c'est le sol. Et certainement, s'est-elle dit en voyant le sol, ben, c'est là ma demeure. C'est la seule chose que je verrai et je vivrai un jour là. C'est l'image de la mort. Image de ce qu'un jour, ça sera ma demeure. Comment faire des projets? Comment s'imaginer vivre une autre vie dans ces conditions? Impossible, impossible. De nos jours, combien d'hommes et de femmes vivent courbés, vivent fatigués depuis longtemps, fatigués par le travail, à force de courir, à force de travailler trop, on devient courbé. Et même quelquefois, même ne pas travailler, on devient courbé. Je pense aux chômeurs qui se trouvent à la maison et qui ne trouvent pas de quoi subvenir à ses besoins parce que personne ne veut l'embaucher. Elle se trouve courbée en entendant les voisins qui s'activent pour aller au travail et puis moi je reste à la maison à rien faire parce que je ne trouve pas. Et à la fin, on se trouve courbé parce que la seule chose qu'on a envie de regarder, c'est pas plus que le sol. Courbé parce que je n'arrive pas à noyer sous les dernières factures, que je n'arrive pas à payer ces factures qui s'accumulent et je me retrouve comme noyé et courbé de plus en plus. Peut-être êtes-vous de ces gens qui se trouvent courbés et dites-vous que c'est difficile, je ne m'en sortirai pas. Courbé parce que cette peine perdue, je n'y arriverai pas, dites-vous. Il y a un homme qui dira ceci dans le psaume 38. Un homme de Dieu, le roi David, c'est un roi, un homme qui a du pouvoir. Et cet homme va exprimer la sincérité qu'il vit, mais aussi la faiblesse aussi. Dans le psaume 38, verset 6, il dira ceci, « Je suis courbé, Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse, car un mal brûle mes reins, et il n'y a rien d'intact dans mon corps. Je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. La détresse de David était grande. Comme cette femme, elle vit la même chose. Et toi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à s'identifier au travers du témoignage de David, de cette femme courbée, face à la maladie, de ce que je suis impuissant? Y a-t-il dans ta vie une plaie infecte et purulente, à cause peut-être de la folie, à cause peut-être de mauvais choix faits dans votre vie, à cause du péché? Et peut-être te trouves-tu agité. Et agité, on finit par manquer de sommeil. Agité, on ne dort plus. Le matin, on est agité, agité même le soir, et rien ne marche. Et comme cette femme, courbée, blessée, meurtrie devant Jésus. Et tu te trouves encore courbé par le poids du péché. Comme si votre colonne vertébrale était courbée. Courbée au fond, courbée parce que la vie est difficile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Comme s'il y avait quelque chose qui au fond s'était brisé. Et comme la honte, le rejet, ça n'aide pas. À la fin, on finit par regarder au sol. Et c'est la seule chose qu'on finit par regarder. Il y a quelque temps de cela, parler d'un témoignage d'un jeune homme qui vivait dans une ville. Il y a dans cette ville de Grenoble une librairie. Et cette librairie était accolée à l'église et la librairie était ouverte assez très souvent. Et il y a un jeune homme qui entre dans cette librairie et va directement voir le pasteur. Pasteur, pasteur, un jeune homme agité en lui-même et lui exprime que dans sa vie, il n'y a rien qui ne va, qui vit une vie en désordre. Effectivement, ce jeune homme avait une vie comme un sac rempli de nœuds. Et ce jeune homme était troublé en lui-même. Allant voir le pasteur, il lui a exprimé le fait qu'il était mal dans sa tête, mal dans son corps, mal en lui-même, qu'il était troublé et les choses n'arrangent rien. Et il lui dit que sa sœur dans son pays lui avait eu cette mauvaise idée de lui jeter un sort et il se sentait mal en lui-même. Et le pasteur lui parle de l'évangile, lui exprime que la seule chose qui te reste à faire, c'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Ce jeune homme lui explique pourtant que comment faire pour m'en sortir. Il n'y a personne qui veut bien me donner un travail. Toutes les portes se ferment. Je n'ai pas d'amis, personne. Et il se trouve comme cette femme, courbée, désespérée. Le pasteur lui parle de Jésus, lui exprime que lui, il a porté ta maladie pour toi et il l'a cloué sur la croix. Lui va prier avec lui, très simplement, au travers d'une prière simple. Les jours passent et lorsque ce jeune homme retournera à l'église, il n'y aura plus besoin, il ne va même plus lui demander comment ça va, parce que cela va se lire sur son visage, qu'il va rencontrer Jésus. Que le fait même de lire sa parole, les choses vont changer. Cela se lira sur son visage. La question c'est, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Me direz-vous, que faudrait-il que je fasse à moi qui suis courbé par la vie, courbé par tant de choses qui m'emprisonnent? L'attitude de Jésus sera la bonne. L'attitude de Jésus montre la compassion qu'il a pour chacun d'entre nous, qu'il a eu pour cette femme. Il va la voir, il la voit, il la touche et il la délivre. Il aurait pu la rejeter, cette femme. Il aurait pu, c'est vrai, aller voir les responsables religieux, il aurait pu aller voir ces hommes et ces hommes religieux et enseigner, mais il ira voir cette femme pour vous dire que c'est par grâce que vous êtes sauvés, que nous sommes sauvés, c'est par grâce. Et c'est ce qu'il va lui faire, Jésus, il va lui faire grâce, lui donner ce qu'elle ne mérite pas, parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, mais c'est le don de Dieu. Verset 12 est écrit ceci, lorsqu'il la vit, lorsqu'il la vit. Question est, où était-elle cette femme, cette femme courbée, où était-elle? Elle était au milieu de la foule. Elle était dans la synagogue et dans ce lieu de prière. Il n'y avait pas 5-6 personnes, mais ils étaient nombreux. Mais elle était là, au milieu de cette foule. Ce n'est pas elle qui ira vers Jésus, mais c'est Jésus qui s'adressera à elle. La question est, où es-tu, mon ami? Où es-tu? Es-tu comme cette femme au milieu de la foule, perdue parmi d'autres inconnus? Et as-tu entendu parler de Jésus? Peut-être que ce n'est pas la première fois que tu entends parler de Jésus, du message de l'Évangile. L'Évangile, c'est une bonne nouvelle et c'est ce que ça signifie. Es-tu entré dans ce lieu simplement pour entendre un message et te faire du bien ou pas? Où es-tu entré pour, comme cette femme, faire cette expérience que Jésus est le seul à pouvoir me redresser, redresser ma vie qui a été courbée? Si c'est le cas, il n'y a qu'un pas à faire. Comme je l'ai dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Faire cet acte de foi, peut-être l'avez-vous fait en venant dans ce lieu, le découvrir encore plus. Recevoir une parole de lui, quelque chose qui va changer ma vie. Alors vous êtes au bon endroit. Poursuivez, continuez, allez jusqu'au bout de votre démarche. Et Jésus, au fond, message, que peut-il faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire, Jésus? Le prophète Ésaïe présente Jésus de cette façon. Il dit ceci, quelque chose, Ésaïe écrit ces mots, et plus tard Jésus les prononcera. Ésaïe chapitre 61, verset 1, c'est Jésus qui parle, qui le dira plus tard. Il dira ces mots, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé, il l'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. De ce que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Et ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, il ne souhaite pas vous condamner malgré le péché qu'il y a dans votre cœur, la vie que vous avez menée jusqu'ici. Il veut vous sauver. Il veut vous faire du bien. Il veut même vous guérir, vous redresser, pardonner vos péchés. Et s'il y a une clé quelque part, si vous êtes enfermé dans une cellule et qu'il y a une clé quelque part à trouver, Jésus est la clé de la serrure de votre cellule. Et dans ce cas-là, si vous venez à lui, il vous touchera. Il va la toucher, lui imposer les mains. Dit autrement, il va s'associer à sa souffrance, à la souffrance de cette femme qui a été brisée physiquement. Jésus va la redresser, il va la délivrer. Il aurait pu passer outre, mais il va la délivrer. Le verset dans notre texte de l'évangile de Luc, versets 12 et 13, il y a ces expressions qui sont encore d'actualité. Si vous faites cet acte de foi, verset 12, Jésus qui lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et verset 13, « À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. » Comment ? Quelqu'un dira ceci, oui, mais ça c'est dans la Bible, ça c'est un texte, c'est écrit dans un livre, mais est-ce que c'est d'actualité aujourd'hui? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est encore possible. si vous y croyez. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est encore possible que de ce que Jésus puisse vous redresser et vous guérir. C'est possible. Comment faire? Comment Jésus peut-il me guérir? Quelqu'un pourra dire, c'est parce qu'il va faire une chose, lui. Il va prendre notre souffrance, notre maladie, et de ces choses, il va le clouer sur une croix. L'apôtre Paul dira ceci aux Colossiens, chapitre 2, verset 13. « Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruite en la clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles, comment? Par la croix. Que la guérison, la délivrance est possible. Oui, c'est vrai, c'est possible. Si vous faites l'acte de foi nécessaire, parce qu'il va la clouer sur la croix. Il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison de craindre, mais d'y croire. Parce que Jésus, croire en celui qui a porté nos souffrances, croire en celui qui s'est chargé de nos douleurs, croire en celui qui a été blessé pour nos péchés, croire en celui qui a été brisé pour nos iniquités. Et même plus que cela, que celui, en particulier pour celui qui par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Si vous y croyez de tout votre cœur, vous serez guéris. Maintenant se pose une question importante, trouver la guérison est importante, et je le souhaite à chacun d'entre nous. Mais tout de même, il faut se la poser cette question, et le péché alors, si Jésus me guérit, et s'il y a le péché qu'il y a dans mon cœur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? À quoi bon être guéri et finir en enfer? Et si cette femme, après avoir été redressée par Jésus, et si elle était retournée dans son ancienne vie, à quoi bon? À quoi bon? Parce que le salaire du péché, c'est la mort, nous ne l'oublions pas, et restera toujours la mort. À quoi bon? Il y a des choix dans la vie à faire. La guérison, d'accord, Seigneur, redresse-moi, redresse ma vie, redresse mon existence, et il le fera. Mais il y a d'autres choix à faire. L'apôtre Pierre dira ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19. Et ces choix se résument ainsi, « Repentez-vous donc et convertissez-vous. » Des choix, ils se présentent ici. Dans ce que le péché qui me condamne, il convient de tourner le dos à ce péché et de changer de comportement. Il dira ceci, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » Et ça, c'est une bonne nouvelle. De ce que si je mets ma vie en règle, que si je me décide à suivre Jésus-Christ, choisir la bonne direction, le bon chemin, de celui qui m'a redressé un jour, qui va le faire, vous recevrez bien plus que cela. Vous recevrez plus tard la vie éternelle, le pardon de vos péchés. Et il vous donnera une nouvelle vie. Votre vie va changer. Vous ne serez plus la même personne, mais quelqu'un de différent. Le message de l'Évangile est ainsi, pour terminer. Et la bonne nouvelle, elle est accessible pour chacun d'entre nous. Cette bonne nouvelle parle d'un Dieu d'amour. Un Dieu qui se présente sous les traits de Jésus-Christ. Un Dieu qui va sacrifier son Fils afin de nous donner une vie meilleure. Et ce choix vous appartient. Rejeter Jésus ou l'accepter, le choix vous appartient. Mais je voudrais vous encourager à choisir la vie. Suivre Jésus, prendre la bonne décision, faire le bon choix. Et comme cette femme, vous ne le regretterez pas. Amen. Je vais prier pour terminer ces moments. Notre Dieu, notre Père, je voudrais te bénir, Seigneur, pour ta présence. Nous l'avons lu, tu redresses, tu ne brises pas le roseau cassé, bien au contraire, tu le redresses. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, pour celui ou celle qui entend ou réentend ce message, ce texte, peut-être que cette personne l'a déjà lu. Mais Seigneur, je te prie, afin que cette parole, que chacun de nous puisse la retenir dans notre cœur, que nous puissions la méditer, que nous puissions considérer qu'il n'est pas trop tard de faire la paix avec toi, qu'il n'est pas trop tard même de trouver la guérison, que même si nous avons vécu avec certaines choses dans le cœur, mais qu'il n'est pas trop tard pour te les déposer et repartir à zéro, comme nous l'avons chanté. Repartir à zéro, repartir avec un cœur purifié du péché. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions repartir avec ta parole dans le cœur, afin que nous puissions repartir avec la paix, la joie de te connaître davantage, avec la joie de ce qu'un jour nous te verrons, avec la joie qu'offre le salut. Bénis ces moments, Seigneur, et que tu puisses bénir chacun de nous. Amen.